Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses parce que Richard, ce matin, m'a fait l'amitié de raconter à peu près la moitié de ce que je comptais dire maintenant. Mais au moins, je vous ai préparé au moins pas mal d'images pour illustrer les différents films sur Dracula. J'ai décidé de m'attaquer plutôt à tout ce qui a été adaptation plus ou moins proche du roman original de Stoker, même s'il y a quelques films quand même plus ou moins marquants et des interprètes aussi plus ou moins marquants qu'il ne fallait pas oublier au passage. Le seul problème, c'est que la toute première adaptation, personne ne la verra jamais. Parce que si le roman originel est paru en 1897, il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour qu'il soit traduit à la fois en français et en allemand. Et c'est à peu près à cette période, c'est-à-dire au début des années 20, que le cinéma s'est intéressé à Dracula. Et la toute première adaptation s'est faite dans son pays d'origine, enfin quasiment pas très loin de son pays d'origine, c'est la Hongrie. Et un film qui s'appelait Dracula Alala, qui devrait signifier la mort de Dracula, d'après ce que j'ai compris. Mais le film a été diffusé une première fois en 1921, il est ressorti en 1923, et malheureusement, il a été totalement perdu. Et on a juste retrouvé un script, et d'après le script, ça ressemblerait plus au fantôme de l'opéra qu'au Dracula de Bram Stoker, donc on peut se dire qu'on n'a pas perdu trop grand-chose. En fait, la première grande adaptation de Dracula, elle ne s'appelle pas Dracula, parce que pour des problèmes de droit, le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau a choisi à la fois de rebaptiser son film et de rebaptiser tous les personnages. Par exemple, là, il n'appelle plus Dracula, il appelle son héros Nosferatu. Harker s'appelle Uther, Van Helsing s'appelle Bulwer. Et donc, le comte Dracula s'appelle maintenant le comte Orlok. Et il a changé aussi son look. Je vais vous passer un extrait. Voilà. Il y a le son aussi. Là, je ne sais pas du tout comment faire pour le son. De toute façon, c'est du muet, c'est pas trop gênant. Il y a peut-être une musique, non, il n'y a peut-être pas de musique. J'espère. Donc, l'acteur. C'est un acteur de théâtre qui s'appelait Max Schreck, qui était très grand, très maigre. Et là, on l'a maquillé pour qu'il ait un crâne chauve et des incisives pointues. À l'époque, il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru sur lui en disant qu'en fait, c'était pas un acteur, c'était carrément un vampire qui avait été engagé pour jouer le rôle. Mais finalement, c'était bien un acteur qui a joué pas mal de faux au cinéma à l'époque. Donc, il a incarné un vampire extrêmement effrayant et pas du tout séduisant. On peut le voir. Et là, il est en train d'attirer une proie à lui, en la regardant de loin. Donc ce film a fait l'objet d'un remake en 1979, dont on parlera tout à l'heure. Mais il a aussi fait l'objet d'un autre film qui est peut-être plus intéressant en soi. C'est en 2000, le réalisateur américain Elias Meridge a eu l'idée de faire un film sur le tournage donc, de Nosferatu, qui s'appelle « L'ombre du vampire ». Mais en partant justement de la rumeur disant que Max Schreck n'était pas un vrai acteur, mais c'était un vampire. Donc on s'aperçoit effectivement que le personnage joué dans le film par, dans le nouveau film par Willem Dafoe est un vampire et que Murnau va carrément filmer tous ses méfaits qui sont donc évidemment ceux de Dracula. Donc là c'était la première adaptation qu'on a failli aussi ne jamais voir parce qu'à l'époque, donc comme Murnau avait essayé de contourner l'histoire des droits, les ayants droit de Stoker l'ont attaqué, ils ont voulu faire détruire le film, mais finalement, ils ont réussi à l'époque à s'entendre, et le film est bien sorti, et c'est devenu le chef-d'œuvre qu'on connaît, c'est un des plus grands films de l'expressionnisme allemand de l'époque. Excusez-moi, j'ai quelques petits problèmes avec l'appareil. Voilà. Et là, on était en 1922, et finalement, la première adaptation la plus connue, la vraie, si on peut dire, parce que là, elle s'appelait Dracula, et tous les personnages reprenaient leur rôle original, si on peut dire. C'est dû à un réalisateur américain qui s'appelait Tom Browning, qui était devenu une grosse vedette à l'époque du muet, notamment en faisant jouer son acteur fétiche Lon Chaney. Lon Chaney qui avait failli interpréter le Dracula qu'on va voir, mais malheureusement, il est mort entre-temps. Ça fait qu'on a fait appel un acteur qui était devenu lui célèbre au théâtre, c'était un acteur roumain qui était né en Transylvanie, tout allait bien. Un acteur qui avait pris le pseudonyme de Bela Lugosi et qui jouait depuis 1927 la fameuse pièce de théâtre inspirée elle aussi du roman de Stoker qui avait été écrite par Hamilton Dean. Il a eu un tel succès que une fois que Lon Chaney était mort, on a pensé à lui directement pour lui accorder le rôle. Et autant son accent hongrois extrêmement lourd le desservait des fois au théâtre, autant dans le Dracula de Browning datant de 31, ça lui a été extrêmement utile. Et là, on va le voir affronter, si on peut dire. Ben là, j'ai toujours pas le son, donc il y a quelque chose avec. Donc le vieux monsieur avec l'accent, c'est le professeur Van Helsing, qui est la némésis dans le livre. Bela Lugosi. Comme on le voit, c'est pas un film d'action, c'est vraiment un affrontement psychologique, contrairement aux versions des décennies de plus tard, où on va avoir vraiment des grandes scènes de violence.
Your will is strong, Van Helsing.
Voilà comment. Donc c'était le fameux Bela Lugosi, qui n'a pas été le. Enfin, c'était pas le seul premier Dracula, parce que comme Richard l'a dit ce matin, lui tournait la journée et pendant la nuit, c'est un certain Carlos Villarias qui tournait dans la version hispanophone, qui est soi-disant peut-être un peu meilleur, parce que paraît-il que toutes les erreurs de tournage du jour, on essayait justement de les effacer, d'arranger toutes ces erreurs-là la nuit dans la version hispanophone. Et cette version-là est disponible maintenant en DVD, donc on peut comparer les deux versions. Paraît-il que le tournage de Dracula a un peu influencé l'état d'esprit de Bela Lugosi, enfin le fait d'avoir joué la pièce de théâtre pendant plusieurs années, puis le film, puis sa notoriété, plus surtout son addiction aux drogues et notamment à la morphine. On fait courir pas mal de rumeurs sur Lugosi, disant notamment qu'il couchait dans un cercueil et tout ça. Mais par contre, bizarrement, il n'a pas retourné de Dracula par la suite. Il a tourné plusieurs vampires, par exemple, dans La Marque du Vampire, il a joué un vampire qui s'appelait le Count Mora, qui était extrêmement ressemblant, en 1935. Pareil, dans Return of the Vampire, en 1944, il a joué un vampire qui s'appelait Armand Tesla, mais pareil, c'était pas encore Dracula. Donc la seule fois où il a repris nommément le rôle de Dracula, c'était en 1948, où il a affronté les deux Nigos, c'est-à-dire Abbott et Costello. Mais là, à l'époque, il était vraiment très très malade, et je crois que quand on a voulu qu'il voie le film, une fois fini, on l'a apporté en civière devant l'écran, tellement il était malade. Et je crois que pendant les 4 années qui ont suivi, il n'a plus joué. Il a recommencé vers 1952, et il est mort peu après en participant à Plan 9 from Outer Space, malheureusement. Donc on était en 31, et personne n'a repris le rôle dans les années qui ont suivi. Il y a deux films qui en sont proches. Ça a été d'une part en 1936, La fille de Dracula. On ne voit pas Dracula, par contre, on voit donc sa fille, et c'est un peu la version, la suite directe, parce que ça se passe juste après, et on voit la fille qui l'enterre, enfin qui incinère son père, et qui prend un peu sa suite. Et sinon, en 1943, il y a le fils de Lon Chaney qui a récupéré le rôle. Alors, c'est pas exactement Dracula, le film s'appelle Le fils de Dracula, et effectivement, lui dedans, il s'appelle Alucard, c'est-à-dire Dracula à l'envers. Et en cours de film, il annonce effectivement qu'il est le fils de Dracula. Et je vais vous passer un petit extrait de ce fils de Dracula tourné par le grand Robertson Mack. Si ça se trouve, c'est peut-être son.
You are very brilliant, aren't you, Professor Lasso? Perhaps too brilliant for your own good. And that of Dr. Brewster. You are right. I am here because this is a young and virile race. Not dry and decaying like ours. They have what I want, what I need, what I must have. Do you suppose that I would allow any mortal to stand in my way?
Dracula, c'était un scénario original qui n'avait plus grand chose à voir avec le roman de Stoker. Mais il fallait quand même en parler parce que l'acteur est connu dans les deux cas. Pareil à la suite, donc on était en 1943, 2 ans plus tard, il y a un réalisateur qui s'appelait Ernst Sick Anton qui a fait deux films l'un à la suite de l'autre, c'était La Maison de Frankenstein et La Maison de Dracula, qui reprend les grands monstres de l'Universal, c'est-à-dire Dracula, Frankenstein, des fois la momie, non, pas dans celui-là, mais le loup-garou joué là par Lon Chaney Jr. Et pareil, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le Dracula original, mais le rôle dans les deux cas était confié à John Carradine, qui était un grand acteur de complément de l'époque, notamment John Ford, qui a prêté son élégance, mais malheureusement, il n'avait pas tellement de prestance, du moins, il n'avait pas le charisme voulu. Enfin, il est quand même pas ridicule, donc je vous passais un extrait de La Maison de Dracula, qui était le deuxième des deux. Jusqu'en 79, John Carradine a repris plusieurs fois le rôle, souvent dans les séries B fauchées, la plus connue étant Billy the Kid contre Dracula, où Dracula s'exportait au western et affrontait le fameux Outlaw. Effectivement, il était encore battu. Donc on avait quitté pendant l'espace de quelques films l'adaptation du roman d'origine. On va y revenir en 1953 avec un film extrêmement peu connu, notamment chez nous, qui s'appelle Dracula Istanbul'da, qui est en fait le Dracula turc. D'un certain Mehmet Moutar. En fait, c'est pas exactement l'adaptation du roman de Stoker, c'est l'adaptation d'un roman d'un auteur local qui lui-même avait adapté le roman de Stoker, enfin qui l'avait traduit, mais en transposant toutes les scènes anglaises à Istanbul. Pourquoi pas? Et le roman d'origine s'appelait Le Voivode Empaleur, d'après ce que j'ai compris. Très joli titre. Il y a quelques anecdotes sur le film. La plus gentille, c'est qu'en raison de la religion du pays, aucune croix n'a pu être utilisée pendant le tournage. Et la plus amusante, c'est que normalement le cinéma turc, notamment populaire, est extrêmement pauvre, donc a très peu de moyens. Et là, comme le réalisateur n'avait pas de machine à brouillard, on a demandé à une trentaine d'assistants de tirer sur des cigarettes comme des pompiers. Comme ça, ils ont réussi à faire la brouillard. C'est original. Donc je vais passer un extrait. Il faut savoir que ce film-là, les premières minutes ressemblent un peu au roman, mais le reste, après, ça s'en éloigne. Donc c'est l'équivalent du personnage de Harker qui est dans le château Dracula et qui va découvrir l'affreuse vérité sur le compte.
Thank you.
Voilà, c'est un extrait de...
C'est un costume d'époque du tournage.
Vous avez vu l'extrême luxe des cercueils, superbe, avec marqué Abdou Latif dessus. C'est très très beau. Donc c'était en 53, 5 ans plus tard, en 58, les Américains vont reprendre Dracula dans un Return of Dracula, qui est joué par le Tchèque Francis Lederer, qui était un jeune premier des années 30, qu'on avait oublié là. Mais là, l'histoire n'a strictement aucun intérêt, c'est Dracula qui arrive en Californie pour échapper à l'Europe, et qui va évidemment essayer de trouver des jeunes femmes pour trouver du sang, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Par contre, en 58, il y a eu la grande révolution du côté des Britanniques, vu qu'à la firme Hammer, il y avait deux couples, si on peut dire, père et fils, les Innes et les Carreras, qui avaient décidé de faire revivre tous les grands monstres de la Universal, que ce soit Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, l'homme invisible. Ils ont décidé d'abord de faire en 57, Frankenstein s'est échappé en accordant les deux rôles principaux à deux jeunes acteurs britanniques qui étaient encore quasiment inconnus à l'époque. C'était Peter Cushing qui jouait le Baron Frankenstein et Christopher Lee qui jouait le monstre. Et devant le succès, enfin relatif pour l'époque, on a décidé de faire un remake de Dracula, qui en français s'appelait Le Cauchemar de Dracula en 58, avec le même réalisateur Terence Fisher. Là, on a accordé le rôle de Van Helsing à Peter Cushing, qui viendra notamment plus tard un Sherlock Holmes excellent. Et on a donné le rôle de Dracula à un immense acteur d'origine italo-britannique qui s'appelle toujours Christopher Lee, parce qu'il est encore vivant. Un acteur extrêmement impressionnant physiquement, parce qu'il fait quand même 1m96. Et tout ça pour donner donc à Dracula un ton, plus du tout, comme disait Richard ce matin, plus du tout un ton de gentleman venu des pays de l'Est, mais là c'est le côté bestial de Christopher Lee sur lequel on a compté. Effectivement, Christopher Lee n'a quasiment pas de ligne de dialogue, d'ailleurs dans le deuxième film qui va tourner en interprétant le rôle de Dracula, il n'a quasiment plus aucune. Donc on mise sur le rôle, vraiment sur le côté bestial. Par contre, en face, on va lui donner un Van Helsing qui, contrairement à Edward Van Sloan dans le film de 31, qui était quasiment un vieux professeur, quasiment apathique, là, on va donner un rôle très dynamique à Peter Cushing pour donner des affrontements beaucoup plus physiques, carrément de la violence. Donc là, c'est violence et sensualité, parce que le Dracula de Christopher Lee est beaucoup plus sensuel, évidemment, que le pauvre Bela Lugosi qui était un peu plus excentrique qu'autre chose. Donc comme je vous l'ai montré, l'affrontement entre le Van Helsing et le Dracula de 1931, vous allez voir l'affrontement entre ces deux personnages en 58, vu par Terence Fisher. En 58, Christopher Lee, pendant des années, va refuser de reprendre le rôle. Et finalement, il va se laisser tenter pas avant 1966 avec Dracula, Prince des Ténèbres. À partir de là, sa détermination va s'effriter de plus en plus parce qu'en 68, il reprend le rôle dans Dracula et les femmes. En 70, dans Une messe pour Dracula. La même année, dans Les cicatrices de Dracula. Et encore en 73, en 72-73, dont par contre deux films qui sont les moins bons de la série anglaise de la Hammer. C'est des films qui se passent à notre époque. C'est Dracula 73 et Dracula vit toujours à Londres. Qui n'ont quasiment plus rien à voir avec le roman de Stoker. Donc, toujours chez Christopher Lee, il faut aussi noter dans sa filmographie Les Nuits de Dracula en 70. Ça a été tourné en Espagne. Là, c'est une adaptation soi-disant beaucoup plus fidèle du roman d'origine qu'a voulu Jesús Franco, qui est un réalisateur espagnol de série Z, si on peut dire, parce qu'il avait des budgets extrêmement microscopiques. Mais vu le budget et vu le talent assez incertain de Franco, le résultat fini n'est pas extraordinaire, malheureusement, même s'il a voulu être très proche du personnage original, notamment avec le look, si on peut dire, de Christopher Lee au départ, qu'on voit avec des cheveux gris et une grande moustache grise. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des ambitions. Donc on a vu que le dernier film de Christopher Lee en Angleterre, sous la cape de Dracula, c'était Dracula vit toujours l'homme en 73. Mais par contre, il s'est encore laissé tenter en 76, la dernière fois qu'il a interprété le rôle. Mais par contre, c'est pour une comédie. C'est le français Édouard Molinaro qui a eu l'idée d'adapter un roman, non pas Sweet Stoker, mais un roman humoristique de Claude Klotz, qu'on connaît plus sous le nom de Patrick Covin, qui s'appelait Paris Vampire, qui était paru en 74. Et c'est une comédie où Dracula a un fils. Le père et le fils sont chassés de Roumanie, donc ils sont obligés d'aller dans l'Occident. L'Occident, bah, malheureusement, en traversant en bateau, je crois que c'est leur cercueil qui sont jetés par-dessus bord, donc ils sont séparés. Le père, lui, par voie de mer, arrive en Grande-Bretagne, là il devient une star de films d'horreur, alors que le pauvre fils, lui, il vient en France, il vient émigrer, il travaille comme veilleur de nuit, parce qu'évidemment, le jour, il craint le soleil. Les deux vont se retrouver en cours de film. Et là, ils vont tomber amoureux de la même femme qui ressemble étrangement à la mère défunte du fils de Dracula. Donc le rôle a été attribué ici à Christopher Lee pour la dernière fois. Et le fils, c'est assez bizarre de le voir avec Christopher Lee, c'est Bernard Menez. L'immortel interprète de Jolie Poupée. Et ça donne un bon film. Il y a beaucoup de comédies sur les vampires qui sont extrêmement mauvaises, mais celle-là, elle est pas mal du tout.
N'est-ce pas, messieurs ? Ce sont des importations américaines, n'est-ce pas ? Voici le modèle président, deux battants. C'est ce qu'on fait de mieux. Deux battants, vous laissez ouvert afin que vos relations puissent entrevoir une dernière fois le visage de mon fils.
Ça doit être très cher. Ça doit être de la folie.
Il n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Mais ce n'est peut-être pas une folie dévénérée, c'est proche. Surtout un enfant.
Il peut l'essayer.
Non, pardon. Je me demande si mon fils peut l'essayer. Mais... Ne vous inquiétez pas, elle est très soigneuse. Elle tire des chaussures.
C'est pas mal. Hein.
S'il te plaît, tu le prends. Rien ne peut être trop beau pour les retrouvailles, n'est-ce pas?
C'est plutôt bien.
Voilà, la dernière fois que Christopher Lee a joué Dracula. C'est Dracula père et fils. D'Edouard Molinaro en 1976. Donc pour revenir brièvement aussi à Peter Cushing, à son grand antagonique de la mort. Donc Peter Cushing en Van Helsing ne l'a affronté que trois fois, donc une fois dans le premier film, Le Cauchemar Dracula, et donc deux dernières fois dans les deux derniers films anglais. Sinon, il a la particularité d'avoir joué dans trois films avec Dracula dans le titre où Dracula n'apparaît pas. C'est Les Maîtresses de Dracula, Les Sévices de Dracula et Tendre Dracula. Par contre, Dracula apparaît face au Van Helsing interprété par Peter Cushing dans La Légende des Sept Vampires d'Or, qui est la particularité de mêler karaté, enfin tout ce qui est arts martiaux et vampirisme, dans un mélange assez peu réussi. Donc là, on s'était encore vraiment éloigné du roman de Stoker. On y revient en 73, où le grand réalisateur de télévision Dan Curtis, qui adorait le fantastique et qui a créé plusieurs mythes, notamment la série vampirique Dark Shadows à la télévision, qui vient d'être reprise au cinéma avec Johnny Depp, le rôle principal. C'est lui qui est au départ de cette série-là. C'est lui aussi qui avait créé la série Kolchak, alias Dossier Brûlant. Donc en 73, il y a eu l'idée de reprendre le roman de Stoker en le faisant interpréter par un acteur un peu inattendu dans le rôle, qui est Jack Palance. Au départ, le film, c'était un téléfilm au départ, mais qui a été diffusé en salle, donc on peut dire que c'est un film. Mais c'est pas son œuvre la plus aboutie, parce qu'il n'y a pas apporté beaucoup de cœur ni beaucoup de fantaisie, et finalement le résultat est un peu lourd. Donc vous allez voir un peu aussi la scène finale, où on voit Jack Palance en Dracula, et ses deux adversaires principaux.
You're now in my domain, gentlemen. You shall not leave.
L'interprétation de Jack Palance n'est pas franchement subtile et le téléfilm a été quand même plus ou moins oublié depuis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin des années 60 et début 70, visiblement il y a une grande mode Dracula qui a été exportée dans le monde entier. Il y a eu notamment un Dracula au Pakistan en 67. Il y a eu aussi différents Dracula au Mexique où il affrontait les catcheurs masqués qui étaient Santo et Blue Demon. Il y a aussi des Dracula aux Philippines où il a affronté Batman, pourquoi pas. Et aussi en Espagne avec El Gran Amor del Conde Dracula et la saga de los Draculas notamment. Donc les années 1970, c'était vraiment une grande période pour les Dracula de série B qui n'étaient malheureusement pas spécialement réussis. Une des adaptations les plus fidèles du roman finalement, c'était en 79 avec le réalisateur John Badham qui sortait un grand succès, qui n'avait pas grand chose à voir avec Stoker, c'était La fièvre du samedi soir avec Travolta. Et il s'est dit que comme la fameuse pièce d'Hamilton Dean qui avait adapté le roman de Stoker avait beaucoup de succès et qu'il y avait aussi un jeune acteur qui s'appelait Frank Langella qui avait beaucoup de succès aussi avec cette pièce, il a voulu faire une adaptation au cinéma en s'inspirant de la pièce mais aussi du roman, c'est une espèce de mix entre les deux. Et tout ça pour miser sur la sensualité du personnage, parce que Frank Langella c'est un peu un Dracula genre Latin Lover. Et contrairement aux versions précédentes, Dracula est beaucoup moins un monstre. Là, on voit plutôt la passion que Mina lui a inspirée. Souvent, dans les Dracula précédents, ne pouvait pas être amoureux, donc là, visiblement, Dracula est amoureux. Et le film préfigure un peu celui de Coppola 13 ans plus tard, qui porte surtout sur la passion amoureuse entre Dracula et Mina. Et là, ce film de 79, déjà illustre cette passion-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film termine plutôt, enfin a priori, se termine plutôt bien pour Dracula. C'est plutôt les bons, c'est-à-dire Van Helsing et sa clique, qui sont défaits. Donc, on va voir un petit extrait de Frank Langella en Dracula.
Thank you.
Et voilà, c'était le Dracula version 79. La même année, le réalisateur Werner Herzog a eu l'idée de ressusciter, si on peut dire, le Nosferatu de son compatriote Murnau. Mais par contre, comme visiblement, ils ont payé les droits, on va reprendre tous les noms d'origine, Dracula, Harker, Mina. Et il va donner le rôle de Dracula à son acteur préféré, Klaus Kinski, qui par contre va reprendre carrément le look, enfin le maquillage de Max Schreck de 1922, tout en gardant le nom de Dracula. Et un petit extrait vers la fin. Parce que comme dans le film original, l'héroïne, ici jouée par Isabelle Adjani, s'est débrouillée pour garder dans sa chambre Dracula pendant toute la nuit. Et évidemment, Dracula, lui, il a pensé qu'un suicide du sang, mais il s'aperçoit après que la lumière du jour est arrivée et que c'est pas du tout bon pour sa santé. Comme vous voyez, la pauvre fille s'est sacrifiée, elle meurt aussi. L'année suivante, Klaus Kinski va reprendre le rôle de Nosferatu dans Nosferatu à Venise, mais c'est une espèce de série Z strictement sans moins d'intérêt, qu'il faut mieux oublier. Et maintenant, on arrive en 92, où là, il y a le fameux film de Francis Ford Coppola qui a décidé de s'attaquer au roman de Stoker. Mais donc, comme j'ai dit, un peu comme dans la version de Vadam, en insistant sur la romance tout à fait passionnée entre Mina et Dracula, et en l'expliquant dès le départ, parce qu'on voit dans le film que Dracula était très amoureux de sa femme, Elisabetta, qui malheureusement est morte au XVe siècle, et c'est à cause de sa mort d'ailleurs qu'il est devenu vampire, et au fin XIXe, il va retrouver sa femme dans les traits de Mina, et donc retomber amoureux d'elle, et la faire tomber amoureux de lui, évidemment. Le film a été très controversé, certains le prennent pour un chef-d'œuvre, d'autres au contraire disent que c'est une accumulation de scènes non seulement grandiloquentes, mais des fois grand-guignolesques. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes embarrassantes, dont celle que je vais vous montrer maintenant. Thank you. pas d'un goût extraordinaire. Par contre, c'est vrai que le casting a énormément de grands noms. Gary Oldman, qui interprète Dracula, n'a peut-être pas la stature, mais c'est vraiment un très bon acteur. Donc Anthony Hopkins, qui interprète Van Helsing, Winona Ryder, qu'on vient de voir en Mina. Keanu Reeves, en Harker, c'est un de ses moins bons rôles, parce qu'il n'a jamais été bon. C'est un autre problème. Et comme Richard l'a dit ce matin, ce film de 92 a eu un grand succès et a généré tout un tas d'autres œuvres, malheureusement, d'un intérêt extrêmement moindre. Il y a eu notamment un Dracula 2001, où Gérard Butler, qui avait été aussi un très mauvais fantôme de l'opéra, devient un très mauvais Dracula dans une adaptation moderne qui n'a plus rien à voir avec Stoker, qui n'a plus rien à voir avec grand-chose, d'ailleurs. On voit encore Dracula sous forme d'un Dominique Purcell totalement bodybuildé dans la troisième partie de Blade, le chasseur de vampires noirs. Il y a encore un second rôle dans le film Van Helsing, où là c'est Van Helsing qui devient la vedette, sous les traits d'un Hugh Jackman, décidément j'ai du mal à le dire, qui est carrément un guerrier, c'est plus un détective de l'étrange, c'est carrément un guerrier de l'étrange qui va affronter et tuer tous les grands monstres, comme Mr. Hyde au tout début, je crois, et des loups-garous, enfin un peu de tout. Le film est amusant, mais n'a pas une grande portée. Et on annonce notamment en 2012 un Dracula 3D fait par Dario Argento avec Thomas Stretchman qu'il avait révélé en Serial Killer dans le syndrome de Stendhal. Là aussi, on peut craindre le pire parce que c'est Rutger Hauer qui va interpréter Van Helsing et Rutger Hauer, à force de boire des bières, ne ressemble plus à grand-chose. Donc si le reste du film est du même tonnant, du même tonneau, si on peut dire, ça va pas aller loin. Et le Dracula de Coppola a aussi engendré des parodies. Et une des plus amusantes, même si ce n'est pas son chef-d'œuvre, c'est un film qu'on a cité ce matin, c'est le Dracula mort et heureux de l'être, en 1995, qui a été tourné par Mel Brooks. Mel Brooks avait un grand succès plus de 20 ans auparavant avec Frankenstein Jr., qui était une extraordinaire parodie de Frankenstein, avec Gene Wilder. Il est beaucoup moins heureux avec ce Dracula-là, même s'il reprend un acteur qui était connu entre-temps, enfin au départ c'est un vétéran déjà, mais qui était connu pour les films sérieux et qui est devenu une star des films comiques, c'était Leslie Nielsen, notamment avec la série des Y a-t-il un flic, et qui jouait une espèce de flic totalement délirant et totalement déjanté. Là il interprète un Dracula aussi totalement déjanté, où il parodie les différentes versions de Dracula, notamment le Browning, le Murnau et le Coppola. Et donc je vais vous passer un petit extrait où on aperçoit aussi le Van Helsing du film qui est joué par nul autre que le réalisateur Mel Brooks. Et c'est là où tout le monde s'aperçoit que Dracula est un vampire. Parce qu'évidemment, on ne le voit pas dans la glace.
Je ne le vois plus. Comment est-ce possible?
Un vampire n'a aucun reflet dans un miroir.
Elle se débrouille drôlement bien, même sans lui. Mais nous plaisons beaucoup. Donnons-leur quelque chose qui vaille véritablement le coup d'arrêt. Maestro, une chardache.
Sardache.
C'était un des clous du film. Donc c'est pas la première fois qu'on parodiait Dracula.
Pardon, quel est le titre ?
C'est Dracula, mort et heureux de l'être, de 95 de Mel Brooks. Donc il y a eu d'autres parodies, il y en a eu des extrêmement mauvaises, comme les Charlots contre Dracula, qui vont nous épouiller. Il y a eu Le Vampire de Sedam avec George Hamilton, qui était extrêmement sympa, même si ça se passait aux États-Unis. Mais la meilleure, même si Dracula n'apparaît pas nommément, c'est évidemment Le Bal des Vampires de Roman Polanski en 67. Et par contre, le vampire que joue Ferdinand dedans, qui s'appelle Von Krolok, c'est visiblement quand même Dracula. Donc on peut rattacher le film à la saga de Dracula. Alors pour finir, sinon il y a eu énormément, comme vous le pensez, de variations draculesques. Il y a eu au cinéma plusieurs fils de Dracula, plusieurs filles de Dracula. Il y a eu Mama Dracula, Lady Dracula, la comtesse Dracula, la fiancée Dracula, un docteur Dracula aussi, pourquoi pas. On a connu la maison et le château de Dracula. On a même connu le toutou du comte qui s'appelle Zoltan, le chien sanglant de Dracula. Il y a eu des versions encore plus déjantées. Par exemple, il y a eu Blacula, le vampire noir, dans deux films, Blacula et Scream, Blacula, Scream. Il y a même eu un film qui a été fait pour les sourds, interprété en langage des signes, qui s'appelait Defula, D-E-F comme sourd en anglais. Il y a évidemment eu des variations érotiques et des variations pornographiques, parce que contre toute attente, ben, Dracula visiblement excellait au pieu. Dans l'érotique, il y a eu du sang de Dracula sous le patronage de Andy Warhol. Et pour les titres de films X, il y en a un notamment qui s'appelle Dracula Sucks. Je vous le traduis pas. Mais vous voyez ce que c'est. Voilà.
Merci Marc.